Pierrette. Alors, Pierrette, ce matin, on discute des enfants Y, les enfants rois.
Oui.
Juste avant de quitter, on se demandait une question. On disait, bon, on veut pas mettre le blâme ou donner la faute à personne, mais souvent, on a entendu dire l'expression suivante, « Mes enfants, c'est mes grands amis ». Qu'est-ce que t'en penses?
Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça l'a contribué à ce phénomène-là dans le sens que on n'a pas su toujours faire la différence. Un jour, j'avais assisté à une conférence avec un psychologue, puis j'avais trouvé son énoncé tellement intéressant. Il avait dit, vous savez, des amis, vos enfants peuvent en avoir à la tonne. Des parents, ils n'en auront que deux. Des parents sont là pour mettre des limites. Des parents sont là pour tracer la voie. Des parents sont là pour inculquer des valeurs. Des parents, c'est là pour dire non aussi. Des amis, c'est différent. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une belle relation? Pas du tout. Mais lorsqu'on se positionne comme ami, ben il y a des endroits où on n'ira pas. Hein? Alors, je pense que de faire la différence, le rôle d'un parent, c'est différent du rôle d'un ami. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une belle relation, mais il faut comprendre qu'il y aura seulement que deux parents possibles dans la vie de l'enfant.
Écoute, je trouve que ça va bien. On a reçu un appel pendant la pause et l'auditeur a demandé que ce soit Jason qui pose la question. Alors, je t'écoute.
Oui, ben un auditeur qui désirait pas parler en ondes et qui voulait garder l'anonymat, mais qui a amené un point qui disait, on pense quoi des baby boomers, eux, qui l'enfant à 3 semaines se retrouve en garderie, passe d'un bras à l'autre, se fait... dans le fond, passe peut-être les semaines, les mois les plus importants de sa vie, plus de temps avec des étrangers qui prennent soin de lui que de ses propres parents. Puis je trouvais que ça allait bien aussi là avec le propos de Pierrette de dire
absolument.
Il y a deux parents dans la vie de l'enfant, puis c'est ses parents, c'est pas ses amis. Mais là, on a des enfants qui ont été élevés par, on va dire, des étrangers, parce que les parents, la carrière passe en premier, puis là, l'enfant, à 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, se retrouve en garderie, fait plusieurs garderies jusqu'à l'âge de rentrer à l'école, puis entre-temps, ben les parents l'ont moins souvent que la gardienne, finalement. Fait que c'était la question de l'auditeur qu'on a reçue. Là, durant la pause musicale.
Très bonne question, monsieur. Alors, Pierrette?
C'est tout un débat. Hein? On pourrait parler seulement que de ça, les enfants à la garderie en très bas âge. Et loin de moi là, de vouloir commencer ce débat-là. Par contre, ce qu'on peut constater, ce qu'on sait, c'est que les enfants ont besoin de s'attacher à une personne significative en très bas âge. C'est sûr que s'il n'y a pas de figure parentale stable, ça crée un problème. Ça, on reconnaît ça au niveau scientifique. Maintenant, quand on s'est sûr de parler de 2-3 semaines, là, c'est comme dans le très, très, très tôt. Ce qui va arriver aussi, malheureusement, ce qui a contribué, parce qu'on l'a dit, Jean-Pierre, l'idée, c'est pas de lâcher de faire porter le blâme à qui la faute, c'est d'observer des phénomènes, d'essayer de comprendre d'où ça vient et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les impacts de ça et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça. Ce qu'on sait, c'est justement, oui, les baby-boomers ont misé beaucoup sur la carrière. Ce faisant, ben étaient moins disponibles. À un moment donné, ils sont devenus plus à l'aise financièrement. Eux, lorsqu'ils étaient jeunes, il y avait à peu près rien. Tu sais, l'orange puis la banane à Noël. Alors, on a été dans l'extrême, on a voulu gâter les enfants. Parce qu'on se sent coupable de pas être à la maison, ça amène un phénomène d'en donner beaucoup, de dire oui, d'avoir énormément de difficultés à dire non aux enfants, mettre des limites, on les voit pas. Alors, quand on les voit, on peut-tu s'imaginer, Jean-Pierre, qu'on met le paquet? On dit oui à tout, on achète tout. L'enfant veut quelque chose, tu achètes pour compenser pour l'absence qui est là, pour compenser pour ta culpabilité.
Culpabilité, exactement ce que je t'ai pour dire. Est-ce que le fait d'avoir plus de séparation ou divorce aussi, qu'on retrouve chez les baby-boomers aussi,
absolument,
a un rôle à jouer?
Ben, va contribuer énormément. Je te vois une fin de semaine sur deux, j'ai-tu le goût de te mettre des limites? J'ai pas le goût d'avoir, hey là, je veux-tu qu'on soit chum? On va sortir ensemble, on va se payer des choses, on l'amène au resto. Alors, on consomme beaucoup en termes d'objets matériels, oui. On consomme des expériences et on ne veut pas lui faire vivre de frustration le moins possible. Et ça, je dirais, s'il y a une chose à retenir ce matin, une chose, l'incapacité à tolérer les frustrations, c'est la mère de beaucoup, beaucoup de problèmes. Et on va continuer là-dedans aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec le monsieur qui a appelé. C'est sûr que les enfants en garderie à très bas âge, ça a certaines conséquences. Par contre, faut nuancer, il y a des parents qui ont été capables quand même de très bien, qui ont été capables de créer ça, puis il y a d'autres parents à la maison qui sont pas nécessairement plus présents, ils vont être absents psychologiquement. Donc, faut faire une nuance, mais si l'enfant, s'il y a une grande instabilité lorsque l'enfant est très jeune, disons que ça, c'est pas aidant. On okay. s'entend bien là-dessus.
Alors, l'importance de dire non à oh, un enfant
oui. Oh, oui.
a toute son importance.
Oui. On va parler d'une expérience, Jean-Pierre. Tu m'as glissé un mot, là.
Sur le guimauve?
Oui.
OK, oui, 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 oui. Faut absolument que tu me parles du guimauve.
Si tu permets, on va aller là-dessus. Dans les années 60, il y a eu un psychologue du nom de Walter Mitchell qui a fait une expérience qui a un impact majeur aujourd'hui.
OK.
Et on va voir le lien avec la génération Y. Ce qu'il a fait, c'était assez simple. Il a mis des enfants dans une salle, un par un, face à une guimauve. Il avait testé avant, puis les enfants adorent les guimauves.
Quel âge ont-ils les enfants?
Quatre ans.
Quatre ans, OK.
Tu fais bien de me le demander. Et là, la consigne était assez simple. Le psychologue leur disait ceci, il disait, regarde mon tipit, moi je m'en vais faire des commissions. Il les assoyait à face d'une guimauve, puis il disait, je vais revenir dans à peu près 20 minutes. Si tu manges pas la guimauve, tu vas en avoir une deuxième quand je vais revenir. Mais si tu manges la guimauve pendant que je suis partie, t'en auras pas une deuxième. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'à 4 ans, l'enfant est capable de se projeter puis de comprendre que si je touche pas à ce qui est bon là, je vais en avoir plus tard. Alors, ils ont suivi ces enfants-là sur un nombre d'années. 14 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a observé? D'abord, le résultat de l'expérience.
Oui.
Il y a le tiers des enfants qui ont été capables de résister.
OK.
OK, ils se pognaient la tête, ils chantaient, ils dansaient, ils ont été capables de résister. L'autre tiers des enfants ont tenté de résister, mais à quelque part, ils ont succombé à la tentation. Pendant 20 minutes, ça a été trop long. Puis ça, on fera une émission juste là-dessus.
Oui, écoute, puis je pense qu'on peut inviter le monde à aller voir ça sur Internet aussi. Hein.
Oui, si les gens veulent aller voir, là, tapez Marshmallow Experiment sur YouTube. Là.
Oui.
Vous allez voir des versions modernes de ça. Puis un autre tiers qui ont sauté sa guimauve. Tout okay. de suite. OK? Ils ont été très impulsifs. On appelle ça l'impulsivité. Qu'est-ce que ça a donné plus tard?
14 ans plus tard, ouais.
Les enfants qui ont été capables de résister à la guimauve avaient de meilleurs résultats scolaires, avaient de meilleures relations avec leurs amis, leurs parents, étaient mieux adaptés socialement. Ceux qui ont été très impulsifs, lorsqu'on observe, ils sont plus grands décrocheurs scolaires, beaucoup plus de problèmes avec la drogue, l'alcool, les dépendances, les différentes mm-hmm. dépendances. Il y avait beaucoup plus de problèmes aussi au niveau légal, beaucoup plus de conflits avec leurs amis et leurs parents. Lorsqu'on a continué de suivre ces cohortes-là, ben on s'aperçoit que s'ils sont en affaires, ils vont avoir plus de faillites. On s'aperçoit qu'il y a plus de problèmes conjugaux, plus de violence, plus de séparation, et même plus de problèmes au niveau de la santé en général. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? La capacité à dire non à la guimauve, c'est la capacité à retarder le plaisir, à retarder ce qu'on appelle la gratification.
Mmh.
Et c'est déterminant comme pour prédire le succès dans notre vie. Si je suis pas capable de dire non à guimauve, donc aux tentations, ça donne lieu à un paquet de problèmes.
C'est vrai, c'est vrai. Écoute, puis les paquets de problèmes, on va en parler tantôt parce que j'ai un nom qui me vient en tête. Mais on a un appel, Pierrette.
Ah, OK, oui.
Alors, on a un appel de Mme Lynn, qui est une Y, et j'ai hâte de l'entendre. Bonjour, Lynn.
Bonjour. Oui, bien, oui, je suis une Y, une jeune Y même. J'écoute ça, puis je me rends compte que, d'après moi, il y a eu des enfants rois à toutes les générations. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui ont les moyens d'en faire des enfants rois. Parce que dans toutes les générations, il y a eu des enfants aisés qui ont eu tout ce qu'ils voulaient, là.
Moi, ça, c'est pas un peu.
Ils sont certainement devenus exactement ce qu'on décrit aujourd'hui. Et les Y, je pense que c'est une question de valeur et de confiance. Ceux qui n'ont pas été aisés financièrement ont quand même, dans la société aujourd'hui, on prend beaucoup la confiance en soi et tout ça. Je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les Grecs, ils acceptent pas les choses qu'ils aiment pas, ils ont le goût d'échanger. T'sais, ils disent pas, ben c'est comme ça, ils ont conscience qu'ils peuvent changer le monde. T'sais.
Mais je trouve ta question très bonne, Lynn, puis quitte-nous pas, je vais demander à Pierrette de répondre sur ça, mais je veux rajouter quelque chose là, sur ce que tu dis, du pouce sur ce que tu dis, Lynn. Les baby boomers là, qui sont plus âgés, eux autres aussi voulaient changer le monde avec leur peace and love puis le joint là. Alors, oui. Vas-y donc, j'aimerais ça que tu fasses du pouce là. Avec
oui, oui, absolument. Puis Lynn, je peux comprendre que ça peut ce matin, hein, ce qu'il faut voir, c'est des tendances, puis que dans toutes les générations, il y a de tout. Puis je l'ai dit, j'ai moi-même trois Y comme enfant. On s'entend que je dirais pas que hein, tous les Grecs se sont achetés à la poubelle, c'est pas ça du tout. On regarde des phénomènes. Et vous avez raison, Lynn, il y a tout le temps eu des gens dans toutes les générations. Par contre, si on regarde au niveau des chiffres, et c'est là que je vais amener des études, je pense, qui sont très importantes, Jean-Antoine, en tout cas, des auteurs américains qui ont mesuré ce qu'on appelle les traits narcissiques chez les différentes générations. Les traits narcissiques, on dit des gens qui ont un amour de soi grandiose, un peu un manque d'empathie, une incapacité à prendre la critique, un excès de confiance, une recherche du plaisir immédiat, une faible tolérance aux frustrations et des attentes irréalistes. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que selon eux, ces traits-là ont augmenté de façon significative dans la société, dans les sociétés industrialisées. Selon eux, les traits narcissiques ont augmenté dans les 20 dernières années, comparable, il y a la même augmentation que l'obésité aux États-Unis. Alors, c'est pas banal. Juste pour vous donner une idée, Lynn, regardez, il y a eu un sondage Gallup dans les années 50. On tient ça, je vais vous sortir quelques chiffres. Dans les années 50, à l'énoncé, puis ça a été fait sur des milliers de personnes. Je suis une personne très importante, 12% disaient oui à ça. OK, on retient ça dans les années 50, 12% étaient d'accord, les autres beaucoup plus modestes disaient non, tout ça. Dans les années 2005, donc on est très près, 80% disaient je suis une personne très importante. Et vous l'avez dit, Lynn, la confiance en soi, et ça, on va probablement faire une émission que là-dessus, parce que on a passé peut-être d'un manque de confiance, dans certains cas, à un excès de confiance.
Un balancier était d'un bord puis de l'autre.
Oui, et ça a des répercussions. Mais je suis d'accord avec vous que les baby-boomers, il y en a aussi qui sont centrés sur le nombril, qui veulent se payer le meilleur, et tout ça, on n'enlève pas ça du tout. Ce qu'on parle, on essaie de voir des tendances générationnelles et de voir quels sont les impacts de ça. Parce que pourquoi on s'en préoccupe, je vais me permettre de faire du pouce, quand on dit on a plus les moyens, ben on va parler du taux d'endettement. A-t-on plus les
mais
moyens?
Mais j'aimerais demander à Aline, là, t'en penses quoi, Aline?
Ben moi, je suis d'accord, puis quand même assez d'accord parce que je le vois les Grecs, mais moi j'ai été une Grecque dans une grosse famille.
Ah, oh, très différent, là, Liam.
Je dis que la différence est là, mais les valeurs sont différentes dans le sens où on a passé avant c'était famille.
Oui.
Là, à un moment donné, il y a eu la révolution que là les femmes au travail, puis c'était la carrière, puis tout le monde, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'il y a un petit retour de balancier, que les gens, oui, c'est la carrière, mais la famille est redevenue plus importante, tu sais, les mariages reviennent, les familles plus grosses reviennent. J'ai l'impression qu'on dirait qu'on est en train de, on a comme été à l'excès, puis on est en train de faire, wow, là, c'était peut-être exagéré, on va revenir un peu à nos anciennes valeurs.
Moi, Pierrette, sur ce que Lynn dit, là, on entend beaucoup plus des jeunes aujourd'hui dire, écoute, moi, l'important, là, je suis pas vrai, je vais travailler 70 heures par semaine.
Absolument.
Moi, là, tu vas me donner un équilibre. Oui. Je veux avoir un équilibre. C'est-à-dire que je veux travailler, mais si tu me demandes de travailler tous les samedis, non. J'ai une femme, puis je veux avoir des enfants.
Absolument.
Alors, moi, je trouve que Lynn, sur ça, elle a raison.
Ah, oui. Absolument. Puis Lynn, je suis bien d'accord. Ça fait tout... Tu sais, quand on parle de tendance, là, vous allez avoir des gens comme vous qui avaient la tranche d'âge d'Y, mais qui avaient une mentalité de X, ou tu sais, qui ça, on s'entend bien là-dessus. On parle de tendance, et faut comprendre d'où ça vient, faut comprendre que les baby-boomers ont participé à ça, les enfants se sont pas faits eux-mêmes, là, hein, se sont pas éduqués eux-mêmes. Et quand on dit on revient, si vous permettez, on va parler peut-être des paradoxes, c'est-à-dire des messages contradictoires, puis Lynn, vous nous direz ce que vous en pensez.
Oui.
Mais est-ce qu'on...
Oui.
On n'est pas obligé d'aller à une pause tout de suite? Donc, les paradoxes. Vous savez, on dit que c'est une génération de contradictions. Par exemple, justement, Jean-Pierre, tu le dis, à part des jeunes étudiants, quand les jeunes arrivent sur le marché du travail, ils mettent assez vite leurs conditions sur les fins de semaine, sur les jours fériés, et donc on veut pas vivre ce que nos parents ont vécu. Hein? Ça, c'est clair.
Absolument.
Mais en même temps, on veut progresser dans l'entreprise. Donc, on n'est pas prêt à faire les compromis mais on veut comme le beurre et l'argent du beurre. Un autre paradoxe, on se dit très indépendant, mais on aime travailler en équipe. Hein? Mm-hmm. On veut réussir rapidement, mais on veut conserver l'équilibre travail. On se dit très écolo. Et là-dessus, j'ai...
ça, j'aimerais ça que tu t'en parles après la pause, puis je trouve okay. trop bonne.
OK, on va ramener ça à la pause.
Lynn, mais... j'aimerais savoir, avant de te laisser, est-ce que tu es satisfait de la réponse de Pierrette?
Oui.
As-tu une autre question? Parce qu'on va te revenir après la pause.
Je vais continuer de vous écouter.
Et Lynn, continue de nous appeler. on aime ça. On veut des commentaires comme ça.
Je t'ai dit que je n'appellerais pas cette semaine, mais là...
C'est trop bon. C'est trop bon, Lynn.
Tu peux nous appeler la semaine prochaine, parce qu'on a un sujet la semaine prochaine que je vais laisser Pierrette en parler, là, c'est qui est assez... assez bon. Alors, on invite le monde à nous rejoindre au 819-804-0967, poste numéro 1.